27 février 1982, session de métaphysique avec le père Marie-Dominique Philippe à Curières, première conférence.
On m'a demandé de revenir un peu sur le jugement d'existence. Il faut tout le temps y revenir. Il ne faut pas non plus trop insister, parce que alors on ne verrait plus. C'est-à-dire, il y a comme une espèce de mur quelquefois qui se dresse imaginativement. Donc, je vous avais dit que le jugement d'existence se faisait toujours à partir d'une expérience. Il faut toujours se rappeler cela. C'est une trans-expérience, c'est quelque chose de radical. Donc, au fond, habituellement, on ne s'arrête pas au jugement d'existence. C'est le propre du philosophe de déterrer ce qu'il y a de fondamental, comme dans un langage kantien, on dirait la condition sine qua non de toute expérience. C'est beaucoup plus que la condition sine qua non, mais dans le langage kantien, on dirait cela. C'est-à-dire, dans une perspective critique, on dirait le jugement d'existence est la condition sine qua non de toute expérience. Il ne peut pas y avoir une expérience s'il n'y a pas d'expérience au sens fort. C'est même ce qui permet de voir la différence entre une expérience interne, un rêve, un cauchemar. C'est une expérience. Mais ce n'est pas une expérience au sens fort. On ne peut rien bâtir sur un cauchemar. Heureusement. Vous ne pouvez rien bâtir sur un rêve. Alors, la différence entre le rêve, le cauchemar, et quand vous vous réveillez, ah oui, c'est vrai, j'y suis. Non, je vais laisser le rêve avant. Quelle différence y a-t-il entre les deux? C'est que d'un côté, votre intelligence se sert des sens externes et rejoint le réel autre, et de l'autre côté, elle reste enfermée dans l'imaginaire. Quand mon intelligence demeure uniquement au niveau de l'imaginaire, mon intelligence ne rejoint pas la réalité. Et si elle croit la rejoindre, ben elle se trompe. Oui. Quand vous vivez un cauchemar, vous croyez que c'est vrai. Et puis tout d'un coup, vous dites, ah non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a eu entre deux? Il y a que d'un côté, c'est que votre imagination est restée liée à l'imaginaire et vous étiez complètement enfermé dedans. Emmailloté dans votre imagination. Et vous ne pouviez pas rejoindre le réel. Vos sens externes étaient comme aliénés, arrêtés par le sommeil. C'est ce qui fait le sommeil. C'est propre du sommeil. Si vous restiez toujours attaché au réel, vous ne dormiriez pas. Sauf que c'est si tragique de dormir. Et de ne pas dormir par le fait même. C'est vrai. C'est très mystérieux, le sommeil. C'est pour ça que quand on perd le sommeil, on ne sait pas très bien comment le rattraper. Alors on vous abrutit pour retrouver le sommeil. Mais au fond, c'est très difficile. Le sommeil est une chose très curieuse. Je crois qu'en effet, quand vous partez dans l'imaginaire, vous perdez le sommeil. Parce que vous n'êtes plus la frontière entre le sommeil et non-sommeil. Quelqu'un qui est entièrement pris par des hallucinations, sans le savoir, évidemment. Je crois beaucoup de peine de dormir. Et on est obligé de l'assommer pour qu'il dorme. Tandis que quelqu'un qui vit dans le réel, alors, je ne sais pas pourquoi, mais alors il peut dormir. Chaque fois que vous perdez un peu le sommeil, vous pouvez dire, vous avez un peu perdu le contact avec le réel. C'est grave. Et alors, quand reprenez contact avec le réel, vous dormirez. Le réel vous fait dormir, vous voyez. C'est pas le réel vous fait dormir, mais le réel vous permet de dormir. Ouais, c'est la douceur du réel, ça vous permet de dormir. Et ça vous donne une possibilité de dormir. Alors, je pars de là parce que c'est ça qu'il faut essayer de sentir. Si l'intelligence, donc, reste dans l'ordre de l'imaginaire, elle ne peut pas porter un jugement d'existence. Elle reste enfermée dans le point de vue de l'image. Il faut rejoindre la réalité existante autre que moi autre que mon intelligence, parce que ce n'est pas nécessairement autre que moi, quand je dis j'existe, j'atteins la réalité autre que mon intelligence. C'est pas autre que moi, c'est moi-même. Donc le dépassement du mode intellectuel de connaissance pour rejoindre la réalité telle qu'elle est. Il faut donc que la sensation aille jusqu'au bout de ses exigences de sensation. Or, qu'est-ce qui caractérise la sensation dans ce qu'elle a de tout à fait propre? C'est de saisir les sensibles propres. Quand mes sensations restent au niveau des sensibles communs, ça provient de quoi? Ça provient de l'imagination. Et donc, c'est mon intelligence commandée par l'imagination. Je vais vous expliquer ça le plus rapidement possible. C'est très important, c'est très intéressant, parce que ça montre qu'à partir de Descartes, les Français ont perdu le sol. C'est quand même intéressant pour ça. On fait un grand article sensationnel, vous voyez. Alors, on va. L'intelligence, le nous, lié à l'imaginaire. Lié à l'imagination. Donc, elle ne rejoint pas l'autre. L'autre existant. Elle reste dans l'immanence. L'immanence de l'intentionnalité. Je reste dans l'immanence de l'intentionnalité. Une intentionnalité sensible, imaginative, qui sont le domaine des possibles. Et qui n'est pas l'autre existant. L'imaginaire, c'est tous les possibles. Et comme les possibles sont infinis, vous voyez, je peux rester là indéfiniment dedans. Alors, pour rejoindre l'autre, il faut que les sensations soient libérées. Il faut que mes sensations soient libérées. Quand je dors, je n'ai plus le contact avec les autres choses. C'est très très curieux, ça. C'est une chose... Psychologiquement, c'est très intéressant de voir cela, de voir comment l'intelligence est capable de mobiliser mes sensations et comment il y a une possibilité de laisser l'imaginaire me couper du sensible propre. Quand je ne suis pas donc parfaitement éveillé, je tombe dans l'imaginaire. Et les distractions. Vous suivez un cours et puis tout d'un coup, si vous étiez dans le bon Dieu, ça irait bien, mais quelquefois c'est pas tout à fait ça, parce que le bon Dieu vous dit, ben, reviens au cours. Alors, c'est ça ton devoir. Mais vous partez à autre chose, pensez à ce que vous allez faire tout à l'heure. Vous allez penser à ce que vous avez fait hier. Enfin, une distraction. Manque d'attention. L'intelligence n'est plus liée aux sensations. Alors, on décolle. On décolle imaginativement, on ne décolle pas du tout. On reste en immanence, on est en plein horizontal. Le plus horizontal qui soit, parce que quand je touche l'autre, la res, la réalité autre, alors évidemment, là, je touche plus petit que moi. Oui, je touche plus petit que moi, plus petit que mon intelligence, pour pouvoir saisir le plus grand, c'est-à-dire la res première. Mais toute res est transcendante relativement à l'intentionnalité. Donc elle transcende l'intentionnalité. Donc le plus petit, j'ai besoin d'un plus petit que moi pour atteindre le plus élevé. Pour rejoindre le réel, j'ai besoin de ce plus petit. Et là, il y a une transcendance de cet autre existant par rapport à l'intentionnalité. La sensation, donc libérée, l'intelligence va s'unir au sens, va s'en servir, pour atteindre l'autre. Or, l'autre existant n'est parfaitement autre existant que dans les sensibles propres. Pourquoi? Parce que les sensibles propres, c'est justement ce qu'il y a d'ultime dans la réalité sensible. C'est ce que chaque sens saisit directement et d'une manière indivisible. Chaque sens saisit d'une manière indivisible les sensibles propres. Donc,
pour vraiment avoir le contact avec l'autre, il faut passer par les sensibles propres pour que l'intelligence se servant des sensibles propres atteigne l'autre dans ce qu'il a d'original, d'ineffable et d'unique. Puisque chacun de nous, nous existons dans quelque chose d'original et d'unique. Tous nous sommes indispensables à la splendeur de l'univers. N'est-ce pas? Parce qu'il y a en chacun d'entre nous quelque chose d'unique. En chacun d'entre nous, il y a quelque chose qu'on ne peut pas répéter dans nos sensibles propres. Quelque chose d'unique. Donc il faut l'intelligence liée aux sensibles propres pour rejoindre l'autre, rejoindre le transcendant et juger ceci est. Je dis qu'il faut rejoindre les sensibles propres et pas seulement les sensibles communs. Pourquoi? Parce que une intelligence pas assez éveillée, pas assez attentive, demeurant dans l'imaginaire, demeure dans les sensibles communs. Je peux continuer mon rêve, et en continuant mon rêve, je projette sur la réalité ce qui est imaginaire. Et c'est à ce moment-là que je continue dans les sensibles communs. Si ma sensation est parfaitement libérée et parfaitement elle-même, elle ne reste jamais au niveau des sensibles communs. Ce sont des sensations emprisonnées par l'imaginaire qui saisissent les sensibles communs. Ce n'est pas du tout la sensation habituelle. Dans la sensation habituelle, qu'est-ce que vous saisissez? Vous regardez un paysage, qu'est-ce que vous saisissez? Et vous saisissez en premier lieu le sensible propre, la lumière, la couleur. C'est ça que vous saisissez. Oh, comme c'est beau, ce matin, la lumière est magnifique. La lumière a un éclat. Quand vous dites ça, c'est des sensibles propres, ça. Oui, c'est des sensibles propres. Or, je vous avais dit, et ça c'est très très important à voir, que de fait, quand je regarde l'image, dans l'imaginaire. Les sensibles communs sont premiers. Et les sensibles propres sont atteints en fonction des sensibles propres, des communs. Alors, on comprend très bien la projection de l'imagination sur la réalité fait que je m'arrête aux sensibles communs et que les sensibles propres sont seconds. À ce moment-là, il n'y a donc pas vraiment l'apport des sensations externes. Je demeure dans l'imaginaire. L'imaginaire peut envelopper le réel. C'est très très curieux. Regardez bien, je vois des figures. Vous voyez, regardez l'aveugle de. C'est très très curieux, mais c'est même dit dans l'évangile. Hein. Les sensibles communs, les sensibles propres. C'est peut-être extraordinaire, cet aveugle qui a une naissance, qui commence à voir clair. Qu'est-ce qu'il voit d'abord? Il sent pas sensible commun. Et première chose qu'il voit, parce qu'il le voit à partir de son imagination. Et puis en dernier lieu, ah voilà, c'est distinct, c'est précis. C'est très curieux ça. Oui. Alors on voit très bien, bon, je crois que c'est assez facile à comprendre, comment la suppression des sensibles communs laisse l'intelligence emprisonnée dans l'image. Et parce que l'intelligence est emprisonnée dans l'image, l'intelligence ne rejoint pas l'autre transcendant. L'autre existant dans sa transcendance, c'est-à-dire dans son altérité propre. Elle saisit l'autre, non pas dans son altérité propre, mais dans sa projection de l'image. Et donc ce n'est pas l'autre existant. Et ce n'est plus le jugement d'existence. Est-ce que vous voyez bien ça? C'est important, tout simplement pour comprendre que le jugement d'existence, c'est vraiment l'alliance de l'intelligence et des sensations dans ce qu'elles ont d'original. La sensation, vous comprenez la distinction sensible propre et sensible commun? Je la fais comment? C'est une distinction que je fais au point de vue philosophique. Parce que les sensibles propres sont toujours liés aux sensibles communs, tout le temps. Mais je peux philosophiquement faire cette distinction. Et je fais cette distinction pourquoi? Parce que je vois bien que mes images sont d'abord des sensibles communs. Et que la réalité va plus loin, que mes sensations vont plus loin. Il y a une espèce de coupure dans les sensations entre les sensibles propres et les sensibles communs. C'est dans l'analyse que je fais ça. En réalité, quand mes sensations s'exercent normalement, je saisis toujours en premier lieu les sensibles propres. Et en second lieu, comme support, comme conditionnement, les sensibles communs. Les sensibles communs sont toujours présents dès que je saisis les sensibles propres. Sont toujours présents. Mais il peut se faire que les sensibles communs soient présents sans les sensibles propres. Comment ça se fait? C'est par l'imagination. C'est l'imagination qui est assez puissante, ça c'est les hallucinations, c'est ça. L'imagination est assez puissante pour pouvoir faire que je n'arrive pas à la libération complète des sensibles, des sensations externes, des sensations externes, et alors je n'arrive pas à rejoindre les sensibles propres. Je reste emmailloté dans l'imaginaire. Alors, comprenons que lorsqu'il s'agit d'une intelligence liée à l'imaginaire, qui rejoint les sensibles communs sans rejoindre les sensibles propres, je peux à ce moment-là dire « il y a quelque chose », mais je ne peux pas dire « ceci est ». Et alors c'est le partage, si vous voulez, qu'on avait vu avec notre cher Octave, n'est-ce pas, entre le jugement d'existence où on dit ceci est, et le jugement d'existence d'atour, comme dit Octave. Il dit ceci est donné. Je peux en effet, par les sensibles communs, dire il y a quelque chose, mais je ne le connais pas. Il y a. Donc c'est le il y a. C'est le d'atour. C'est le es gibt allemand. Que reprend Heidegger, c'est très curieux, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a quelque chose. Si quelque chose est donné, c'est le fait d'être, le fait d'exister. Je me heurte à quelque chose, mais je ne le connais pas vraiment. Vous voyez, parce que je l'ai connu par l'image, par une espèce de projection. Donc c'est vraiment le mur. C'est le mur devant lequel je me heurte, d'où Kant dira le nous-mêmes. Je ne connais pas la réalité. Je ne connais que ce qui est a priori. Ce qui est donné a priori vient du sujet. Oui. C'est très curieux. Il y a une espèce de lien entre toutes ces positions philosophiques qui font comprendre comment, de fait, l'intelligence n'étant pas, ne se servant pas vraiment des sensations externes, parce qu'elles ne sont pas complètement libérées, elles sont encore sous le joug de l'imaginaire. C'est tyrannique l'imaginaire. Tyrannique. Il faut voir quelqu'un qui n'est plus, comme on dit aujourd'hui, peu entièrement équilibré. Bien, c'est l'imaginaire qui le tyrannise. Ça, c'est très très net. Il est tyrannisé par l'imaginaire. Moi, je suis de plus en plus impressionné de voir combien l'imaginaire est tyrannique. Et étant tyrannique, il maintient une espèce de confusion globale. Il n'y a plus la précision et la présence. Quelqu'un qui est tyrannisé par l'imaginaire n'est plus présent. Il reste enveloppé dans son imaginaire. Alors il pourra tout reprendre par le sensible commun. Et il n'y a plus que les sensibles communs dans tout ce qu'il dit. Alors, on voudrait avoir la possibilité de libérer, si on pouvait libérer à un moment donné les sensibles propres, leur redonner leur vigueur, je crois que progressivement, l'objectivité reviendrait. Mais c'est pas commode. Parce que je crois que quand on est très, très emprisonné par les sensibles, par les... C'est là où je crois qu'il y aurait quelque chose de très important à comprendre. Parce que le démon se sert des images. Il se sert de l'imaginaire. Il est le prince de l'imaginaire. Tandis que Dieu touche la réalité existante. Dieu seul touche les sensibles propres. Le démon ne peut rien faire sur les sensibles propres. Ça l'agace. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit des sensibles communs et de l'imaginaire, le démon peut là faire tout, croire tout ce qu'il veut, toutes les relations possibles. On est dans le possible imaginaire. Et c'est en sens ça qu'il nous ligote, qu'il nous empêche. Alors vous voyez, les poussées affectives qui se mêlent là-dedans d'un point de vue d'imagination, parce que les poussées affectives, c'est par le point de vue des passions, les passions se... Pour les passions, il suffit d'images. Pour pas besoin des sensibles propres. C'est la volonté qui veut vraiment une fin et qui veut atteindre la fin et le bien qui a besoin des sensibles propres. Mais pas le point de vue, pas le point de vue de l'imaginaire. Pas le point de vue des passions, je veux dire. Les passions, ça suffit, les sensibles propres, les sensibles communs. Alors on comprend comment c'est tout le domaine du démon qui est tyrannique. Bon, l'imaginaire est tyrannique à cause du démon, hein. Bien évident, c'est pas par l'imagination, c'est pas par elle-même. Elle n'est pas mauvaise, l'imagination. Elle est même bonne. C'est évident. Mais l'imagination se laisse emporter par le démon, et alors elle devient tyrannique. Et quand l'imaginaire est tyrannique, il n'y a plus de véritable affectivité. On est ligoté, notre cœur est ligoté, comme dans un cocon. Peut plus. Et alors tout devient un peu anonyme, devient légion. C'est le nombre, c'est la quantité, c'est la figure, c'est le mouvement, c'est le repos, c'est tout ça. C'est tout ce domaine des sensibles communs. C'est pour ça que c'est très très important de saisir ça, parce que au point de vue profond, vous voyez, au point de vue profond, l'intelligence qui se lie aux sensations externes, qui atteint les sensibles propres, est une intelligence qui se libère. Il y a deux libérations. Hein. Il y a la libération qui peut venir directement de Dieu et la libération qui peut venir de nous. C'est toujours la même chose. Dieu convertit notre cœur et Dieu nous demande l'effort de convertir notre intelligence. C'est le temps de la conversion. Et alors, la conversion de l'intelligence, c'est l'intelligence qui veut rejoindre les sensibles propres. Et quand elle rejoint les sensibles propres, l'intelligence, à ce moment-là, se convertit. Elle se convertit au réel. Elle ne reste pas enfermée dans l'image. Alors, il y a la conversion du cœur au niveau des passions et la libération du cœur au niveau des passions. Ah, ça, c'est la Bible. Ou la Vierge Marie. C'est son rôle. C'est le rôle maternel. Tandis que l'autre, c'est le rôle de l'intelligence où Dieu nous laisse notre propre liberté et notre propre soin de nous libérer. Et je crois que les deux conversions doivent être simultanées. Parce que je crains beaucoup, quand il n'y a que la conversion du cœur, que très très vite, le terrain demeure, vous voyez, le terrain demeure mauvais, insalubre. Hein? Il y a tous les microbes possibles et tous les moustiques qui viennent. Alors les moustiques qui donnent la fièvre paludienne, c'est les sensibles communs. C'est les sensibles communs. Vraiment, ils vous laissent dans la fièvre paludienne. Oui.
Quand on dit convertir son intelligence, précisément, qu'est-ce que ça veut dire si l'intelligence n'a pas été atteinte par le péché?
L'intelligence n'a pas été atteinte par le péché, mais l'imagination.
C'est dans l'alliance, alors.
Hein? C'est l'alliance de l'intelligence avec les... au-delà de l'imaginaire et des sensibles propres. Elle retrouve son état natif. Vous voyez ? Mais l'imaginaire, par le point de vue des passions, est fameusement touché par le péché. Si nous n'avions pas été, s'il n'y avait pas les conséquences du péché originel, vous savez, l'imaginaire serait obligé de revenir constamment vers le réel. Et elle serait commandée par le réel. Elle n'aurait pas cet aspect tyrannique. Oui. Ça, c'est les conséquences du péché. La tyrannie de l'imaginaire. Et vous voyez, c'est la concupiscence des yeux. La concupiscence des yeux, c'est l'espèce d'image extraordinaire de volonté de puissance, de domination. Tout ça, c'est l'imaginaire. Si on était dans le réel, on n'aurait aucun désir de dominer. Aucun.
on accepterait ce que Dieu demande et puis tout, on serait à sa place, à cette situation. Tandis que l'imaginaire nous donne un désir de briller, un désir de dominer, un désir d'être. Vous voyez, ça c'est l'imaginaire. Et on a de la peine à en sortir parce qu'il faut sortir de l'imaginaire pour rejoindre le sensible propre. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on m'avait demandé l'exemple, la pierre lourde. Oui, pourquoi les sensibles? J'aime mieux le prendre comme ça, vous voyez, parce que la réalité, elle est constituée directement par le point de vue des sensibles propres. Et donc, si je ne rejoins pas les sensibles propres, je ne rejoins pas l'existence de l'autre. Je reste dans le coton de l'imaginaire. Et le coton de l'imaginaire va jusqu'au sensible commun. Et ça, c'est, vous voyez, au fond, c'est le double mouvement, si vous voulez. Les sensibles communs, c'est le domaine de l'imaginaire qui domine jusque-là. L'imagination a envie toujours de coloniser. Alors elle prend. Elle ne peut pas atteindre les sensibles communs. Elle ne peut pas atteindre les sensibles propres. Donc voilà la barrière. Et pour atteindre les sensibles propres, il faut prendre une voie au-delà de l'imaginaire, et c'est l'intelligence qui se sert de l'imaginaire en le dominant, et qui atteint les sensibles propres. Donc il y a deux voies d'accès différentes. Les sensibles propres, c'est la réalité qui parle à mon intelligence. Les sensibles communs, c'est l'imaginaire qui va le plus loin possible pour accaparer les sensibles communs. Double mouvement. Et c'est, pour pouvoir faire ça, il faut déjà que l'imaginaire ait enchoussé l'intelligence. Alors, quand l'imaginaire a enchoussé l'intelligence, elle gagne jusqu'au sensible. Quand l'intelligence reste première et qu'elle se sert de l'image, alors à ce moment-là, elle peut écouter la réalité. C'est une écoute de la réalité. On est présent au réel, ou on n'est plus présent au réel. On sait très bien, chacun d'entre nous, quand on est fatigué, qu'on commence déjà à rêver debout, ben vous n'êtes pas en écoute vis-à-vis du réel. Vous êtes dans votre petit rêve qui commence. Parle toujours, t'écoute. Mais en fond, on n'écoute plus du tout. On est pris dans son rêve, on a deux doigts déjà de dormir. On continue, c'est vrai, quand vous n'en pouvez plus, quand vous dites, ben, vous continuez très bien, je t'écoute, oui, va. En réalité, je t'écoute pas. Voyez, pour pouvoir écouter, peut-être éveillé, il faut que l'intelligence ait prise le biais de commande. Et quand au contraire, l'imaginaire, parce que le rêve, c'est l'imaginaire qui prend tout. L'intelligence est enchloussée quand vous dormez. Complètement, vous êtes dans l'imaginaire. Alors c'est d'abord l'intelligence qui perd le droit de commande, et puis après, c'est l'imaginaire qui prend. C'est très très curieux de voir ça. Bon. Ça va comme ça? S'il y a des questions, il faut les poser. Elle vous les posera après, peut-être. Jugement d'existence sur la qualité. Alors, c'est autre chose. On pose l'autre question. Je crois qu'on peut laisser ça. Ce jugement d'existence porte-t-il sur une réalité existante? Peut-il porter sur une qualité existante? Oui. Je vois la neige blanche, la clarté, la lumière. Alors, puis-je dire cette réalité, cette clarté, cette lumière existe? Je suis en face des sensibles propres, là. Le jugement d'existence ne porte pas sur les sensibles communs. Sur les sensibles communs, impossible. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je suis du côté de l'imaginaire ou pas de l'imaginaire. Alors, je ne peux pas. Tandis que lorsque je vois une réalité et une qualité sensible, je peux dire, cette qualité existe. Alors, en réalité, le jugement d'existence ne s'arrête pas à la qualité, mais s'arrête à la réalité existante ayant telle qualité. Je ne peux pas abstraire la qualité propre de son support. Vous savez ce que dit Aristote, c'est dans le Vie Anima où Aristote fait la distinction entre les sensibles propres, les sensibles communs, qui sont des sensibles percés, et le sensible per accidens. Ça, c'est une petite distinction qui va vous aider à comprendre ce que nous disons maintenant. Si
c'est une distinction que saint Thomas a reprise, qui est capitale, hein, qui est très très importante.
Ça, ça vaut la peine d'être vu.
C'est dans le second livre du Péripsuchès, chapitre 4 ou 5. Peu importe. Bon, alors, vous avez, Aristote va distinguer les sensibles percés. Quand il dit les sensibles percés, c'est-à-dire ceux que la sensation atteint directement. Alors, il dit sensible percé propre, commun. Puis les sensibles perachidens, ceux que la sensation atteint par l'intermédiaire des sensibles propres ou communs. Oui. Cette sensible perachidens. Alors, le sensible perachidens, c'est le sujet, c'est le todeti. C'est-à-dire, c'est Pierre. C'est Jacques et Jean. C'est les sensibles communs. C'est les sensibles perachidens. Je ne sens pas l'individu. Je ne peux pas le sentir, l'individu. L'individu comme individu. Celui qui existe. Celui qui existe est au-delà du sensible. C'est l'intelligence seule qui l'atteint. Donc, quand on pose la question, hein, le jugement d'existence sur la qualité, est-ce que le jugement d'existence porte sur la qualité propre ? Non. Le jugement d'existence à travers la qualité propre atteint le sensible perachidens, Pierre. C'est Pierre qui existe. Et la qualité n'existe qu'à cause de Pierre. Donc, en réalité, quand vous dites cette lumière est magnifique, et cette lumière, elle implique un sujet, cette lumière. Alors, quand vous dites elle existe, en réalité, vous atteignez la source de cette qualité. C'est pour ça qu'on peut dire le sensible perachidens. C'est le sujet que j'atteins, toujours, le sujet existant. Je ne m'arrête pas à la qualité sensible. Mon jugement d'existence va plus loin. Parce que mon intelligence ne peut pas s'arrêter à la qualité sensible. Mon intelligence saisit la réalité qui existe. Et donc, à travers la qualité sensible, j'atteins le sujet, qui est le sensible perachidens. Vous voyez ça, j'espère. Hein? Parce qu'autrement, vous hypostaseriez la qualité sensible. Vous en feriez une chose. Alors à ce moment-là, ce ne serait plus la qualité sensible. Ce serait un sujet. Et ce ne serait plus la qualité sensible. La qualité sensible, elle est saisie par la sensation. Or, la sensation est incapable d'un jugement d'existence, comme sensation. La sensation, elle sent, c'est tout. Et le jugement d'existence, c'est l'intelligence. Et seule l'intelligence atteint l'être. Seule l'intelligence atteint le Toeinam, le fait d'exister. Le fait d'exister à la lumière, le fait d'exister au blanc. Seule l'intelligence se saisit. Donc, dans mon jugement d'existence, je me sers des sensibles propres, des sensibles communs, pour atteindre le sensible perachidens que mon intelligence atteint directement. Oui. Ce qui est perachidens au sens est percé à l'intelligence. Ce qui est accidentel au sens est immédiat à mon intelligence. Mon intelligence se saisit tout de suite et immédiatement.
Ça va comme ça?
Jugement d'existence vrai, pur, non lié à la substance. Ah. Comprenons bien. Le jugement d'existence atteint l'être de telle réalité. C'est le ceci est. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est toujours à travers les sensibles. Sensibles propres, sensibles communs, sensibles perachidens, que mon intelligence, qui est liée aux sensations, va poser ceci est. Le ceci, c'est le sensible perachidens. qui est atteint par le sensible propre et sensible commun. Et c'est à ce moment-là où l'intelligence, à travers ses sensibles propres et communs, peut, au-delà de la sensation, saisir qu'il existe. Donc, on saisit toujours l'être du ceci. Dans le jugement d'existence, je saisis toujours l'être du ceci. Je ne saisis pas l'être séparé du ceci. Donc je ne saisis pas du tout l'être pur. Comment je saisirais Dieu? Vous voyez, Dieu est présent à tout ce qui existe comme créateur, et du fait même qu'il est créateur. Mais il est présent d'une façon invisible et cachée, et mon intelligence ne peut pas le saisir directement. Ce que je saisis, c'est la réalité existante. Or, cette réalité existante existe toujours à travers la composition du monde physique, à travers le devenir, et à travers le mouvement, et à travers les qualités sensibles, à travers les sensibles propres, les sensibles communs et les sensibles thérapeutiques. C'est toujours à travers ça que se réalise mon jugement d'existence. Mon intelligence est capable de dépasser tout le conditionnement des réalités pour atteindre la réalité telle qu'elle est, dans ce qu'elle a de tout à fait particulier, dans son être. Mais c'est l'intelligence qui saisit ça, parce que vous n'avez jamais vu l'être qui se balade en dehors du ceci. C'est assez effrayant. C'est un peu le désir d'Heidegger, vous savez, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que Heidegger voudrait qu'il y ait l'être, qu'il ne soit pas Dieu, qu'il soit en dehors du ceci et qu'il soit l'être. Il ne le verra jamais. Oui. C'est un petit peu l'illusion. Oui, c'est là, c'est l'espèce de la qualité pour la qualité. C'est l'art pour l'art. Je voudrais la qualité. Je voudrais la lumière pour la lumière. Et vous n'aurez jamais la lumière pour la lumière. Vous aurez toujours la lumière de ce matin, dans tel lieu. Vous aurez la lumière du soir, la lumière de midi. C'est toujours la lumière de tel moment, de tel endroit. La lumière grecque, la lumière d'Israël, la lumière, et ainsi de suite. Hein. Et la lumière de Plurière, c'est encore quelque chose de spécial. Alors vous avez toujours la lumière particulière de tel ou tel endroit. C'est vrai, ça c'est la lumière. Mais ce n'est pas la lumière pure. Vous n'avez jamais saisi la lumière pure. Vous l'imaginez. Vous imaginez la lumière pure. Vous pouvez en rêver. Et toute votre vie, courir après la lumière pure. Et vous n'arriverez jamais à saisir la lumière pure. Mais c'est la lumière en soi. La lumière en soi, ça n'existe pas, sauf dans votre imagination. Votre intelligence peut abstraire toutes les lumières possibles, avoir la lumière en soi. Mais au fond, en réalité, ça n'existe pas. C'est le grand rêve de Platon, c'est la lumière en soi. Alors, je peux faire l'être en soi, vous voyez. La même chose, exactement la même chose. Et dire, au fond, c'est l'être que je saisis. Attention, vous saisissez toujours l'être du ceci. Vous pouvez très bien alors interroger qu'est-ce que c'est que l'être. Alors à ce moment-là, vous essayez de mettre l'être dans toute sa lumière, mais vous savez que c'est dans une interrogation. C'est tout à fait autre chose. C'est comme vous poser la question, qu'est-ce que c'est que la lumière en soi? Et vous pourrez dire immédiatement, la lumière en soi, ne cherchez pas ce que c'est que la lumière en soi, cherchez quelle est la lumière de tel endroit, de tel autre endroit, et vous revenez à la réalité. Mais à ce moment-là, petit à petit, vous arrivez à voir, c'est sûr, une conception de la lumière qui est de plus en plus riche. Si vous avez vu divers pays, divers lumières, divers levées du soleil dans les divers pays, vous avez une conception de la lumière extraordinaire. Faire un livre sur la lumière. Ah, les photos, évidemment. Montrer les lumières diverses. Alors, de là, vous concluez la lumière en soi. Et ça, c'est vous qui concluez. Ça n'a jamais existé, la lumière en soi. Il existe toujours la lumière de tel endroit. L'être du ceci. Est-ce que c'est bien ça, vous voulez? Parce qu'il faut me le dire, si c'est ce point de vue-là. Jugement d'existence vrai, pur. Le jugement d'existence est vrai quand il atteint l'exister de telle réalité. Mais il n'atteint jamais l'exister en soi. L'exister en soi, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans mon imagination. Et puis c'est tout. Ça fait partie, vous voyez, des idées en soi de Platon. Et les idées en soi de Platon n'existent pas. C'est l'imaginaire qui fait ça. Alors on pourrait retrouver une espèce de nostalgie platonicienne en disant qu'on voudrait avoir, dans un jugement d'existence absolument vrai et absolument pur, on voudrait retrouver, si vous voulez, le point de vue de l'exister non lié à la substance, donc non lié au ceci, et l'exister à l'état pur. Oui ?
La qualité de mon jugement d'existence, est-ce qu'il dépend du ceci ?
La qualité de mon jugement d'existence. Qu'est-ce que vous voulez dire par la qualité de mon jugement d'existence ? Parce que la qualité du jugement d'existence, c'est la vérité.
La perfection, je peux atteindre le être de façon plus ou moins pure.
Plus ou moins pénétrante. Pénétrante. C'est plutôt du côté de la pénétration qu'il faut voir. La qualité de l'intelligence, intus et gere. C'est du côté de la pénétration, pas du côté de la pureté. Oui. C'est du côté de la pénétration. Et alors, c'est l'intelligence qui veut pénétrer toujours plus loin dans ce qu'est la réalité. Mais elle sait qu'elle ne pénètre dans le ce qu'est la réalité que toujours à travers le conditionnement du monde physique.
Le reste de la table est le même que le reste de Pierre, de Jacques et de Jean.
Ah non, pas du tout. Il n'est pas le même. Il n'est pas le même. Il est. La table existe, réellement.
Donc c'est un jugement d'existence particulier.
Chaque fois, c'est un jugement d'existence particulier. Le jugement particulier le plus parfait que vous pouvez poser, c'est par rapport à vous. Parce que vous avez ce privilège de dire « j'existe ». C'est extraordinaire. Mais alors, faisons attention. C'est le plus parfait, et en même temps, ce n'est pas le plus parfait. Vous avez besoin aussi du jugement de l'autre. Parce que l'autre va apporter une objectivité plus grande. Mais d'une certaine manière, par le jugement de vous-même, vous avez une possibilité de pénétrer plus avant. Et c'est toujours la même chose, c'est l'expérience interne, l'expérience externe. Elle se complète.
Qu'est-ce que vous voulez dire par jugement d'existence le plus parfait ?
Le plus vrai. La perfection d'un jugement, c'est sa vérité.
Sa vérité dépend de quoi ?
Sa vérité dépend si votre intelligence atteint la réalité, telle qu'elle est.
Pourquoi vous dites que c'est sur le vivant ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Non, sur moi.
Oui, mais moi, pour le vivant.
Oui, mais moi, parce que j'ai vis-à-vis de mon être une proximité unique. Que vous n'avez pas. J'ai ce privilège-là par rapport à vous. Sur mon être. Et vous l'avez sur vous.
Je crois que la question est de savoir si le vivant a plus de être ou a un être plus parfait que celui de la table.
Ben, c'est évident. C'est évident qu'il a un être plus parfait.
Alors donc, à ce moment-là, le jugement est parfait.
Et il n'est pas plus parfait. Tout dépend si mon jugement est vrai. Si mon jugement est vrai, quand j'atteins l'être de la table, mon jugement est aussi parfait que sur la vache. Oui. Mais c'est sûr qu'il est plus facile d'atteindre le jugement d'existence sur une réalité vivante, sur moi-même, que sur la table. Mais d'autre part, la table a cet avantage parce que c'est une réalité artistique qui, selon la sensibilité, est plus proche de moi. Vous voyez, au fond, il y a les deux extrêmes, si vous voulez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, pour essayer de saisir ce que peut représenter justement le jugement d'existence. Vous avez les deux extrêmes. Vous avez l'œuvre d'art. L'œuvre d'art a toujours un privilège unique. Et l'œuvre d'art, c'est la table. C'est une œuvre d'art, ça. La plus misérable qui soit, elle demeure une œuvre d'art. Donc, une œuvre d'art. Et puis, vous avez vous, moi. La vache est entre deux. Hein. La vache, elle n'est pas tout le temps là. Tandis que moi, je suis toujours là. C'est l'immense avantage au point de vue du jugement d'existence. Et la table, les objets d'art sont aussi toujours là. Il y a au moins une chaise, un strapontin, toujours quelque chose, une cuillère. Il y a toujours, l'objet d'art est tout le temps là, l'outil. C'est toujours ça. Donc, c'est les deux. Alors, l'œuvre d'art a une proximité vis-à-vis de ma connaissance, vis-à-vis de mon jugement, que mon moi n'a pas. Pourquoi ? Parce qu'il a une proximité d'altérité. L'œuvre d'art est ce qu'il y a de plus autre. C'est bien évident qu'est-ce qu'il y a de plus autre. La nature a toujours quelque chose de maternel et d'enveloppant. L'œuvre d'art est toujours quelque chose qui blesse. Parce qu'il est très autre. Vous voyez, c'est très curieux, ça. C'est comme ça. C'est l'altérité de l'œuvre d'art s'impose. Je m'identifie plus difficilement à une cuillère ou à une table. Je m'identifie plus difficilement à une cuillère et à une table qu'à la nature. Parce que dans la cuillère et la table, l'altérité est plus poussée. Mais ça, c'est sûr, du côté de la forme. La forme expressive, l'altérité est plus poussée. Donc, il y a dans le jugement d'existence à l'égard de l'œuvre d'art, grâce à cette altérité plus poussée, une capacité plus grande de saisir l'autre. Et au contraire, à l'égard de moi, je saisis ce qui est de plus intime. Vous voyez ? C'est pour ça que je crois qu'il faut tout le temps prendre les deux. Le jugement d'existence de l'autre, le jugement d'existence de moi. Et une fois que vous avez les deux, vous comprenez d'une part l'intériorité et d'autre part l'extériorité. L'intériorité du jugement d'existence à l'égard de moi-même, j'existe. Vous vous saisissez à travers toute votre affectivité, toute votre intériorité. Mais comme le point de vue de l'affectivité, de l'intériorité,